contre l'industrie de l'armement, à Toulouse comme ailleurs. Depuis plusieurs mois, la guerre a fait son grand retour dans notre réalité médiatique quotidienne. Elle est pourtant bien présente partout, et depuis bien longtemps à travers le monde. Les discours nationalistes, xénophobes, racistes et guerriers se succèdent et se mêlent, comme souvent, aux enjeux de pouvoir et d'argent. Face à cela, nous vous proposons de ramener la guerre à une réalité locale bien matérielle, son industrie. Car Toulouse, en plus d'être le pays de la violette, de la saucisse et de Jean-Luc Moudenque, est aussi un point stratégique de l'industrie de guerre depuis plus d'un siècle. À la fin du 19e siècle, l'industrie de la mort se développe et devient rapidement essentielle à l'économie locale. Elle survivra aux différents régimes et perdurera au gré des conflits tout en se mélangeant petit à petit à l'industrie civile. AZF, Thales, Airbus, Safran, pour ne citer que cela, sont autant de noms qui font la fierté de la région, mais laissent un arrière-goût morbide. Dans cette période où s'annonce l'intensification de la production d'armes, les commandes pleuvent et les industriels se frottent les mains. Quand la fête pue le cadavre, on peut casser l'ambiance. Rendez-vous le jeudi 30 juin pour un événement en mixité accueilli par le Placard Brûle pour parler des enjeux capitalistes contemporains et historiques de la guerre dans la ville rose, où les pouvoirs publics et les industriels aiment la castagne. Et pour se poser la question ensemble des imaginaires qu'on peut avoir pour lutter contre.
Bah merci à toi. Oh pardon, je t'ai coupé, tu voulais continuer.
Non, juste pour dire, l'ouverture des portes est à 19h30. À 20h30, on présente un documentaire qui s'appelle donc La Poudrière, donc c'est moi qui l'ai fait, sur l'histoire de l'industrie militaire à Toulouse. Et à partir de 21h, on va discuter de ça et puis de ce qui se passe aujourd'hui et de la guerre en général. Bref, voilà, il y aura grignoté sur place et aussi un infokiosque, comme d'hab, j'ai envie de dire.
Ok, bah merci beaucoup d'être là en tout cas pour en discuter et d'être venu aussi pour préparer un petit peu et qu'on puisse un peu débroussailler ce thème qui est super large puisque ça vient poser des questions économiques, historiques, politiques. Et justement, en parlant d'histoire, alors déjà c'est un court métrage que tu as réalisé dans le cadre d'une démarche pour... c'est une fin de recherche, c'est ça? C'est ce que tu m'expliquais? C'est un peu ça le cadre... C'est quoi ta motivation un peu dans la réalisation de ce petit court-métrage?
Bah en fait, le documentaire, c'est un film de fin d'année, enfin de fin de licence même. C'est un peu la synthèse d'une recherche qui vient de commencer depuis, je sais pas, genre deux mois et demi, sur l'histoire de la production d'armement à Toulouse. Donc voilà, donc là je vais pouvoir en parler pour faire un petit état des lieux de où ça en est maintenant. C'est une recherche qui est assez récente, hein, donc il y a des choses qui vont être assez approximatives, etc., etc., et qui vont surtout être menées à changer. Donc c'est pas mal d'infos, beaucoup de pistes, et voilà.
Et donc ce documentaire, il est réalisé à partir d'archives historiques, et c'est assez intéressant. Et justement, est-ce que tu pourrais... parce que, en gros, ce que tu racontes dans ce documentaire, c'est que... l'histoire de l'industrie de l'armement à Toulouse, elle commence à la fin du 18e, c'est ça?
En fait, le film...
Avec la production de poudre, en fait, en tout cas, ouais. Et d'où le nom, la poudrière.
C'est ça, ouais. En fait, l'endroit qui s'appelle toujours aujourd'hui le parc de la poudrerie, là, il y avait une usine qui était située. Enfin, le film s'ouvre là-dessus. Mais en soi, l'industrie de poudre à Toulouse, elle est assez vieille. J'ai pas pu retrouver à partir de quel moment ça commence. Mais il y avait déjà un moulin à poudre, enfin un salpêtre, qui appartenait au pouvoir local, qu'on appelle les Capitouls, qui étaient des espèces de conseils municipaux qui étaient élus par quartier. Bon, ça restait des notables, hein, c'est une sorte de bourgeoisie, quoi. Et ce moulin à salpêtre, du coup, en 1666, donc au moment où Louis XIV a vraiment intensifié le pouvoir d'État sur le reste du territoire, etc., il va être réquisitionné par le pouvoir royal, à la suite de plusieurs arrêts du pouvoir royal qui demande d'implanter des moulins à salpêtre et des usines à poudre dans le pays. Et donc ce moulin va revenir à l'État. Et il se trouve à peu près au nord de l'île du Ramier, là où il y a aujourd'hui l'enclosure, à peu près au niveau de Palais de Justice, quoi. Donc le problème, c'est qu'une usine de poudre, ben, ça explose. Donc il y a un certain nombre d'explosions, celles que j'ai trouvées dans les archives, elles sont entre 1780 et 1840, il y a à peu près 7 explosions. Donc elles sont plus ou moins graves, des fois il y a pas mal de morts, des fois beaucoup moins. Et donc, après une explosion particulièrement grave, en 1847, donc, le préfet vicomte Napoléon Duchâtel va négocier le transfert de la poudrerie royale de Toulouse sur le sud de l'île d'Empalo, enfin l'île du Ramier, pardon, là où aujourd'hui, maintenant, il y a ce fameux parc. C'est juste au-dessus du casino Barrière et à côté d'un truc où maintenant on fait du kayak là. Et donc entre-temps il y a une révolution, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé de choses dans l'implantation de la poudrerie, en tout cas pas d'après ce que j'ai trouvé. Elle, la poudrerie, elle finit vers 1852 je crois, et tout ça, ça se fait dans des plans d'urbanisme qui sont assez courants à l'époque sous Napoléon III, qui consiste à sortir de la ville en fait les industries dangereuses et le reste des indésirables, entre guillemets, sur le même niveau. Par exemple, au même moment, il y a l'hôpital qui va devenir l'hôpital Georges Marchand, qui à l'époque s'appelle un asile d'aliénés, qui est construit pas très loin de la poudrerie, et aussi la prison Saint-Michel, qui est construit pas très loin non plus. Donc ça donne une idée un peu de...
Ouais, c'est ça. C'est, faut se rappeler que la prison Saint-Michel, elle était bon, déjà proche du palais de justice, mais c'était pas vraiment le centre de Toulouse à l'époque. Ouais.
Ouais, à l'époque, c'est pas un endroit qui est très urbanisé. Ouais. Donc ça, ça se fait dans une perspective de... Dans le mémoire que j'ai consulté, elle appelle ça hygiéniste, de sortir un peu tous ces trucs-là de la ville. Ça montre bien sur quel niveau on met la prison et l'hôpital.
Dans ton documentaire, tu parles vachement de la Première Guerre mondiale et tu racontes que cette industrie de l'armement et de la production de poudre à Toulouse, elle a prospéré notamment parce qu'elle était loin du front.
Ouais, c'est ça. En fait, la poudrerie, elle grandit pas énormément avant la Première Guerre mondiale. Par contre, au moment de la Première Guerre mondiale, comme Toulouse est assez loin du front, là, elle va vraiment exploser, au sens figuré cette fois. Elle va passer, par exemple, en 1912, elle fait 10 hectares, et en 1918, elle en fait 400. Donc là, elle va dépasser largement la zone de l'île du Ramier, elle va être là où aujourd'hui il y a un BTS de conduction de bois lourd et entourer ce qu'il y a à ZF. Donc là, ça va vraiment s'intensifier, mais c'est une industrie qui se développe dans l'urgence de la guerre. Donc les infrastructures ne suivent pas et il va y avoir beaucoup d'accidents. Par exemple, l'hôpital Georges Marchand, il va être réquisitionné à ce moment-là pour servir d'hôpital en fait pour les blessés.
Des accidents industriels. Du travail et industriel. Okay.
C'est ça, c'est ça.
Ok. Et il y a un changement qui s'opère autour de 45, c'est ça, de ce que tu me disais. Enfin, en gros, si on prend cette industrie-là de la poudrerie à Toulouse, qui va déboucher sur l'accident aussi industriel d'AZF en 2001, moi, j'avais pas fait le lien aussi avec cette histoire. Il faut savoir que, en fait, dans l'industrie chimique d'AZF qui a explosé en 2001, en fait, elle servait notamment à fournir un certain nombre de composants pour l'industrie de l'armement. Est-ce que tu pourrais peut-être rapidement aussi nous raconter comment cette histoire en fait d'AZF, parce que ça a pas toujours porté le même nom et c'est ouais. En fait, AZF. C'est le, je sais pas si je fais une confusion ou pas, c'est le nom qu'a pris plus tard cette industrie de la poudrerie. Ah d'accord, c'est la même chose, c'est ce dont on parle.
Ouais, plus ou moins, ouais. En okay. fait, l'histoire d'AZF, en tout cas géographiquement, ça commence en 1924. Et ça va s'appeler l'ONIA, donc l'Office National de l'Industrie d'Azote. Et en fait, c'est au moment où la France se lance dans une course à l'armement pour faire de l'ammoniac de synthèse, pour faire des explosifs avec l'Allemagne. Et là, j'ai relevé un changement dans le modèle de production, parce que à ce moment-là, c'est plus possible de produire de la poudre, enfin de produire du matériel militaire en urgence pour répondre à une situation de guerre. Mais il faut préparer en fait cette industrie, parce que de toute manière, les pouvoirs impérialistes vont être dans une espèce d'ambiance de guerre constante pendant toute cette partie-là du siècle. Et du coup, il y a un changement. Dans le mode de production, et on passe à quelque chose qu'on appelle une industrie duale. Déjà, la poudrerie, les poudres, enfin les salpêtres étaient utilisées pour faire des engrais depuis un moment, Mais là, c'est vraiment intégré dans le modèle économique de l'ONIA.
C'est quoi des salpêtres ?
Le salpêtre, c'est la chimie qui sert à faire de la poudre pour faire des explosifs. Et en fait, du coup...
Il y a la naissance de cette industrie duale, du coup, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ?
Juste avant même.
Juste avant, ok. C'est, en gros, c'est ce conflit-là qui va déterminer la structure industrielle. Ok. Et donc, on a une confusion entre le civil et le militaire. Et ces entreprises-là, elles vont avoir à la fois un pied dans le civil et le militaire. Et cette production, elle se confond, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Pour illustrer ça, il y a plusieurs exemples. Par exemple, donc, du coup, l'ONIA, qui deviendra ZF, est produit de l'ammoniac de synthèse pour faire des explosifs. Mais pour faire cet ammoniac de synthèse, il faut du nitrate d'ammonium. Et ce nitrate d'ammonium, il peut aussi faire des engrais. Donc là, genre, dans ce cas de figure en particulier, on utilise du nitrate d'ammonium pour faire des engrais, parce qu'on produit au même endroit de l'ammoniac de synthèse. Mais c'est pour que ce soit un modèle économique soutenable que du coup, on investit dans les deux. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, à la sortie de la guerre, justement, là, c'est plus tard, la France va s'équiper de l'arme atomique. Et pour ce faire, il faut de l'hydrogène pour fabriquer la bombe. Et justement, à ce moment-là, l'ONIA, elle importe du coke et après du méthane, qui sont les combustibles qui permettent de fournir l'énergie pour les transformations de la chimie sur place. Et en fait, à partir du coke et du méthane, on peut faire de l'hydrogène, puis de l'eau lourde, qui, elle, sert à faire... qui, elle, sert dans l'industrie du nucléaire. Voilà. Et du coup, l'ONIA va avoir un partenariat avec le Commissariat à l'énergie atomique pour le nucléaire civil et pour le nucléaire militaire aussi.
D'accord.
Ça se passe entre 1957 et 1963. Donc, ça correspond à peu près au début des essais nucléaires en Algérie.
À Reagan.
Entre 1960 et 1966, ouais.
Alors, on va avancer un petit peu dans le temps parce qu'aussi, l'heure tourne. Du coup, l'ONIA va devenir AZF, implanté du coup sur... l'actuel espace de l'Oncopole de l'autre côté, enfin pas loin de Pêche-David, entre Pêche, bon, au sud de Toulouse, quoi.
Au sud-ouest, ouais. Ouais.
Et donc il y a l'explosion d'AZF en 2001, et cette industrie, cette usine va être reconstruite juste après, va renaître sous le nom de la SNPE. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire quelques mots sur ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Ouais. Alors en fait, la SNPE, ça, c'est ce qui, c'est la, comment dire, c'est ce qui descend de la poudrerie nationale. Donc c'est pas la même chose que l'ONIA et AZF. Elles existent en même temps en fait, ces usines. Okay. Jusque en 2001. AZF va fournir de la chimie à la SNPE. Donc la SNPE, elle se trouve sur tout le sud de l'île du Ramier.
Okay.
Et ça existe toujours aujourd'hui. Il y a toujours le même type d'usine à cet endroit-là. Et en fait, donc juste après l'équipement de l'arme nucléaire, il va y avoir besoin de carburant pour propulser les missiles nucléaires, etc., etc.
Parce que SNPE, ça veut dire ?
SNPE, ça veut dire Société Nationale des Poudres et des Explosifs.
Voilà.
Et ça, déjà... cette entreprise, elle existe jusque les années 2010.
Ok.
Et donc du coup, ce carburant, le propergol, il sert à propulser des fusées, comme la fusée Ariane, etc. Mais aussi à propulser des têtes nucléaires et toute une myriade de missiles et de roquettes plutôt solaires. Sol-air. Et donc du coup, elles travaillent ensemble, ces usines. C'est-à-dire que, par exemple, AZF, ils fournissent de la chimie pour pouvoir fabriquer ce propergol qui passe par un pipeline, etc. Et quand un ZF explose, le site, lui, ne va pas réouvrir. Aujourd'hui, c'est une friche. Par contre, la SNPE, elle va réouvrir quelques semaines après parce que autour de cette industrie, il y a un enjeu politique et international majeur qui est tout simplement l'équipement de la France de l'arme nucléaire, quoi. Donc du coup, ça, à ce moment-là, c'est juste pas négociable pour les pouvoirs publics.
Et très bien. Du coup, aujourd'hui, en gros, ce qui appartenait à AZF et les champs de production de poudre, d'explosifs et toutes les technologies qui sont celles contemporaines, que moi, personnellement, je ne connais pas, mais qui sont notamment celles que tu as évoquées là, sur
les propergols.
Les propergols, ouais. Les propergols, c'est quoi ? C'est des composants qui, aujourd'hui, sont massivement utilisés dans l'industrie de l'armement, des bombes et tout ça ou...
le propergol, c'est un carburant, en fait.
Ok.
Donc, ça sert à propulser tout type de fusées, pour envoyer des satellites, pour envoyer d'autres choses dans l'espace, mais pour plein d'autres choses aussi, oui.
Ok. Et pour clore un petit peu cette introduction historique, aujourd'hui, la Société nationale des poudres et des explosifs, elle appartient à donc elle est toujours présente sur l'île de Ramier, comme tu disais.
Ouais.
Elle appartient à qui ?
Ben aujourd'hui, ça appartient au groupe industriel Safran.
D'accord. Mmh. Qui fait partie des principales entreprises dont on va parler aujourd'hui et qui construisent des armes, des tanks, des logiciels de surveillance, etc.
Ouais.
D'accord.
En partie, ouais.
Est-ce que tu peux donner, c'est des noms qu'on a déjà entendus, mais le nom des principales entreprises qui aujourd'hui en France sont dans ce domaine-là ? Il y a Thales, Safran, Nexter ?
Ouais, Nexter, Airbus aussi travaille beaucoup là-dedans. En fait, un certain nombre de ces entreprises, comme Thales, Safran et Airbus, elles sont toujours sur ce modèle industriel dual. Donc, il va y avoir beaucoup de recherches, de développement, enfin, en gros, de la découverte et de la commercialisation, quoi. Et une partie de technologies, après, elles vont servir pour l'industrie militaire. Et il y a d'autres entreprises qui, elles, sont spécialisées dans le militaire, comme par exemple Nexter, mais ça, c'est un monopole d'État, qui, elles, réalisent concrètement des canons, des véhicules blindés, des trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment la fin de chaîne. Là où l'industrie elle est vraiment duale, c'est surtout dans la recherche. Et à ce moment-là, c'est assez difficile de dire qu'est-ce qui vient d'où. Parce que du coup, cette confusion entre civil et militaire, elle rend l'industrie assez opaque.
Et ouais. On en parlera juste après la pause musicale qu'on va écouter tout de suite. Die for the government.
You gotta die, gotta die, gotta die for your government. Die for your country, that shit. You're gonna die, gonna die, gonna die for your government, die for your country, that shit!
Die for your government, die for your country, that shit. You gotta die, gotta die, gotta die for your government, die for your country, that shit. You gotta die, gotta die, gotta die for your government, die for your country, that shit. You gotta die, gotta die, gotta die for your government, die for your country, that shit.
Il est midi et demi sur Canal Sud 92.2, de retour sur le plateau où on évoque cette histoire de l'industrie de l'armement à Toulouse. Et en fait, on est encore dedans. On sait que il y a plusieurs sites industriels dédiés à la guerre, ce qu'on appelle la défense en neuf langues. Par exemple, je sais que à Ramonville, quand on se balade comme ça à côté du canal, il y a un énorme complexe comme ça qui est inaccessible, qui est sous les projecteurs et tout. Enfin, on voit que c'est ultra sécurisé. Ça fait partie aussi de ce complexe en fait industriel à Toulouse. Est-ce que aujourd'hui il y a moyen de savoir ce qui est produit à Toulouse dans le domaine justement militaire aujourd'hui?
En fait, justement, à cause de cette relation duale de l'industrie entre civil et militaire, c'est assez difficile de savoir ce qui est concrètement produit et où. Et à quoi ça va servir surtout? D'autant plus que aujourd'hui la technologie militaire c'est de la haute technologie, donc c'est très complexe. Donc il y a des sites d'assemblage, mais les matériaux de construction ils sont importés de partout, de plein d'entreprises et de plein de filiales différentes. Ça représente vraiment un gros secteur quoi. Typiquement, je sais pas moi, pour un avion il va falloir un max de filiales pour les matériaux, un max de filiales pour l'électronique, un max de filiales pour l'armement, etc. Il va aussi falloir des filiales pour faire des tests, il va aussi falloir des filiales pour développer des logiciels de simulation de conduite, etc. Donc ça représente vraiment quelque chose d'énorme. Ce qui est sûr à Toulouse, ça échappera à personne, c'est que c'est une ville qui repose quasiment complètement sur l'aéronautique, avec Airbus notamment. Et Airbus construit des avions de guerre, ça c'est sûr. Et l'endroit que tu évoquais à Ramonville, ça c'était, aujourd'hui je crois que c'est juste dans le spatial, mais le spatial et le militaire, ouais, c'est hyper important. Enfin, c'est hyper lié, quoi. Et cet endroit, c'était la filiale d'Airbus qui s'appelle Airbus Defence and Space. Donc, ça fonctionne beaucoup par filiale. Hein. Souvent, il y a l'entreprise principale qui a des filiales qui sont spécialisées dans le militaire. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, l'avion Concorde, qui a été relativement un échec dans l'industrie civile, mais vous inquiétez pas, hein, ça leur a permis de rebondir quand même. Par exemple, tout ce qui a été mis au point dans la propulsion de l'avion Concorde, ça va grave servir dans la propulsion des avions de chasse dans le domaine militaire, du coup. Et un autre exemple qui pourrait illustrer ça, il y a un avion de ravitaillement. C'est un gros avion qui a servi notamment au Yémen, qui permet en fait de ravitailler des avions de chasse en vol, qui s'appelle... C'est un 330 MRTT. Donc ça, c'est assemblé à Toulouse, sur le site d'Airbus à Blagnac, mais comme modèle civil en fait, en mode transport de personnes. Et en fait, cette espèce de base du coup d'avion en modèle civil, elle est exportée dans une filiale qui se trouve au nord de l'Espagne, où là elle est convertie en modèle militaire. Du coup, officiellement à Toulouse, on n'assemble pas d'avions de guerre, mais en fait, si, de fait.
Ok, et notamment à Toulouse, on sait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, qu'il y a une grande partie de la production, de cette production duale qui est dédiée à la recherche et au développement. Tu as évoqué les moteurs, la propulsion, on peut aussi évoquer tout ce qui concerne les satellites, l'imagerie, qui joue un grand rôle dans la stratégie militaire en fait, d'observation des personnes cibles, etc. Ouais.
Ouais. L'aérospatial, tout ça, ouais, ça va, c'est hyper important stratégiquement aujourd'hui. Ouais.
Il y a, alors déjà, on l'a peut-être pas précisé plus tôt, mais tu t'es beaucoup appuyé sur un livre / brochure qui a été publié en 2015 à Toulouse, qui s'appelle Toulouse Nécropole, et qui documente de manière super précise. Qui faisait un état des lieux, alors en 2015, cette structure de l'industrie de l'armement dans notre belle nécropole, et qui est en accès libre sur IATA, notamment IATA.info, et que vous pouvez trouver. Et là, je vais lire un extrait qui justement évoque ce rapport entre recherche, technologie et industrie duale. Donc ils disent l'économie guerrière ne constitue pas un secteur industriel particulier comme l'électronique, la chimie ou l'aéronautique. Elle ne fait pas appel à une seule technique, mais utilise au contraire des techniques très variées. La recherche a un rôle primordial et l'apport de nouvelles technologies est un facteur dynamisant. L'industrie de la guerre se nourrit de l'innovation civile, tout en développant sa propre recherche typiquement militaire. Les liens sont très étroits. La plupart des techniques et technologies utilisées pour les derniers programmes militaires, soldats du futur, drones, etc., sont directement issues des laboratoires civils et publics de recherche fondamentale. Elles trouvent leurs applications dans l'industrie civile tout en alimentant le progrès militaire et vice-versa. C'est cela, la dualité économique. Une recherche civile qui trouve des applications militaires, une recherche militaire qui sert à l'industrie civile. Cela crée de l'opacité autour de la participation à l'effort de guerre, chacun pouvant se réfugier derrière une pseudo-civilité. Oui, on retrouve aussi cet esprit, en fait, notamment des ingénieurs d'Airbus avec qui on a envie de discuter un petit peu des fois, de comprendre, mais en fait, qui participe à cette industrie dégueulasse. Et en fait, il n'y a jamais personne. C'est ultra fuyant. Il y a cette légitimité, en fait, et cette prospérité de l'industrie de l'armement, elle repose aussi sur cette dualité. Même si par ailleurs, c'est des entreprises qui s'affichent complètement aussi. Il y a aussi ça.
Ouais. C'est pas du tout. Enfin, c'est pas quelque chose qui est forcément caché dans la communication. Ouais. En fait, ce qu'on appelle complexe militaire ou industriel, c'est un espèce de jeu assez complexe de conflits d'intérêts entre les pouvoirs publics, les aménagements du territoire par les municipalités, l'industrie militaire, les nécessités plutôt de l'armée. Très politique aussi au plan international sur les ventes d'armes et l'industrie tout court qui, elle, cherche plutôt à faire du bénéfice et tout. Donc tous ces acteurs-là sont plus ou moins liés et jouent d'un rapport de force ou même plutôt pas d'un rapport de force des fois, mais qui donne cette industrie-là, quoi.
Quand on parle de recherche, développement, de drones et de soldats du futur, ça on l'a pas, je sais pas si tu as des infos là-dessus, on n'en a pas parlé avant, mais moi je me demande justement sur ces innovations militaires là, est-ce qu'on sait ce qui est produit actuellement à Toulouse ou développé sur justement, dans le futur, ces choses qui font très très peur, qui sont très dangereuses.
Il y a aussi un article là-dessus sur IATA là, qui s'appelle « Comme le nez au milieu de la figure, un complexe militaire industriel caché au cœur de notre région » qui parle de ce qui se fait plutôt aujourd'hui, surtout dans la recherche et le développement. Donc un bon exemple, par exemple, ça va être Toulouse Aérospace, Montaudran Aérospace. Donc c'est un site qui est fondamental dans le complexe que lui, il appelle « Techno-militaro-industriel toulousain ». Donc ça se trouve sur l'ancien aéroport de Montaudran, enfin actuel même. Et là, en fait, va y avoir un rassemblement d'un certain nombre de sociétés, de groupes d'investissement et d'entreprises. Et aussi, c'est aussi très proche, en général, d'écoles de recherche et d'ingénieurs, comme par exemple Paul Sabatier. Il va y avoir de plus en plus d'intervention et de coopération privée avec ces études-là pour tout simplement former les ingénieurs sur place, faire des stagiaires, j'imagine, et en fait recruter du monde tout de suite, quoi. Le but, c'est que cette industrie, elle ait une forme d'autonomie, quoi, que genre tout soit à peu près au même endroit, etc. Donc ça, par exemple, pour Montaudran Aérospace, c'est assez... C'est assez pertinent de voir comment la municipalité investit dans l'aménagement sur place, parce qu'une grosse partie des travaux de ce nouveau site industriel sont financés par la mairie. Et là, on arrive dans le domaine de l'aménagement des entreprises par la mairie, qui va faciliter le transport et l'installation de ces entreprises dans certains endroits, pour faire des espèces d'endroits qui vont être des secteurs de recherche, d'entreprises et tout. À ce moment-là, ça va du coup attirer des fonds d'investissement immobilier internationaux qui vont investir dans des bureaux sur place, et ça va permettre à d'autres entreprises de venir et de se développer. Donc il y a des endroits comme ça qu'on appelle des parcs numériques ou des accélérateurs de start-up, ça je sais pas trop ce que c'est, mais
accélérateur voilà. Ouais, c'est un peu comme l'accélérateur de particules.
De particules, quoi. Ouais.
Mais d'ailleurs, dans ton film, tu utilises toute une vidéo de propagande pour l'industrie militaire qui vient de Toulouse Métropole, dans laquelle il y a des gens qui se retrouvent autour d'une maquette de Toulouse et qui construisent ensemble, justement, qui planifient et qui bâtissent des nouveaux bâtiments dans cette industrie-là. Qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, on parle souvent des stratégies économiques et politiques de Toulouse Métropole qui a vraiment plein d'aspects, mais globalement, il y a au centre la marchandisation de l'espace et dans ces plans d'urbanisme, etc. Et en fait, au centre de ça, il y a en effet cette concurrence entre différentes métropoles, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, voilà, Toulouse, et clairement les choix politiques qui sont faits par Moudenc et cette classe au pouvoir, c'est jouer sur l'aéronautique, l'aérospatiale, pour attirer des investissements et faire venir de l'argent et des ingénieurs à Toulouse. En gros, c'est vraiment la base et presque la seule stratégie industrielle de Toulouse.
Ouais, grave. Typiquement, ce genre de vidéos qui d'ailleurs mettent pas que en avant l'industrie militaire, mais tout ce qui se passe autour de l'aéronautique et puis aussi du patrimoine, etc. Bref, ça va être utilisé. En fait, c'est pas particulièrement destiné aux riverains, quoi. C'est une vidéo qui met en avant les nouveaux plans d'urbanisation, et ça va servir par exemple des espèces de salons et de rendez-vous où les élus locaux rencontrent justement les représentants des fonds d'investissement en immobilier. Et là, ils se mettent en valeur, quoi. Ils se vendent. Ils disent « Oh, regardez, là, on a un super nouveau site autour de l'aéronautique. En plus, il y a plein de places. En plus, il y a le métro de la ligne C qui va connecter ça avec le centre-ville. Donc, ça va permettre un accès direct. » Vous pouvez venir là, construire des bureaux, construire des logements, et ça va matcher, quoi.
Cette ligne de métro, là, justement, sa construction, tu peux l'expliquer par des stratégies dans le militaire ou pas spécialement ? En fait, c'est juste, c'est un peu le reflet de ce développement de cette industrie aéronautique, quoi.
C'est vraiment des aménagements pour mettre en valeur certaines parties de la ville et pour attirer des investisseurs, ouais. C'est, encore une fois, vraiment, civil et militaire, ça se confond, hein, c'est vraiment la même chose. Donc, faut plutôt voir ça comme une grosse industrie qui va faire les deux de toute manière, quoi. Et au même endroit.
La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. A changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum. Ça n'a pas que boum boum, ça fait toujours boum 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 boum.
Canal Sud 92.2 et on est ensemble jusqu'à 14h et on va introduire cette dernière partie de notre émission consacrée à cette industrie de l'armement bien implantée à Toulouse depuis plusieurs siècles, mais qui aujourd'hui est une entreprise qui produit, enfin un secteur qui produit, qui fait de la recherche, beaucoup de recherche et développement. On l'a parlé, on a beaucoup passé de temps en expliquant justement cette caractéristique duale, en fait, qu'on peut pas vraiment séparer le militaire du civil aujourd'hui dans les secteurs de l'aéronautique, de l'aérospatiale. On a abordé tout l'aspect de la production, mais bon, il faut bien savoir que cette production, elle est vendue. Et elle est vendue. Alors, elle est utilisée à la fois par, j'imagine, l'armée française, mais elle est vendue aussi à d'autres armées. Notamment dans ces pubs, là, je pense à Nexter, Thales et tout ça, ils s'adressent à des États. Est-ce que la production. Oui, la production militaire, elle est vendue principalement à des États.
Oui. En fait, ça aussi, c'est... Encore une fois, c'est assez difficile de savoir, parce que les ventes, elles ne sont pas du tout officialisées et pas du tout communiquées par l'État. Enfin, ça, c'est un euphémisme. Donc, du coup, les informations qu'on a là-dessus, ça va être des infos qui viennent de médias comme Amnesty International, Disclose et Mediapart, qui vont vraiment baser leurs critiques d'un point de vue législatif, pour expliquer que des armes françaises, elles sont vendues à des régimes qui... Enfin, à des pouvoirs qui... Enfin, à des États qui respectent pas le... Enfin, les...
Les droits de l'homme.
Ouais, les droits de l'homme, la législation de la guerre, etc. Et donc, du coup, ils basent vraiment leur critique là-dessus pour expliquer que ces armes, elles sont vendues quand même et en connaissance de cause à certains États. Donc, on a pas mal d'exemples. Ce qui est un, je trouve, des mieux, ça va être l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, ils forment une coalition qui est en guerre contre les rebelles houthis au Yémen depuis à peu près 2014-2015. Et en fait, entre 2015 et 2017, la stratégie de cette coalition, ça va être de bombarder... ça va être de placer des canons tout le long de la frontière nord du Yémen et de bombarder spécifiquement... des points d'approvisionnement, genre des puits d'eau potable, des fermes, des bateaux de pêche, des marchés, etc., etc. Et ça a créé une famine, en fait, sur place, qui a pour but d'affaiblir les forces houthis, quoi. Donc là, clairement, on est sur un truc qui, humainement, est hyper crade, quoi. Et pour cet embargo, il y a plusieurs armes françaises qui ont été utilisées, notamment le canon de Nexter qui s'appelle le canon César, qui est vraiment bijou entre guillemets de l'industrie de l'armement française, qui est un énorme canon hyper précis. Il y a des avions Rafale qui ont été utilisés aussi, qui sont équipés de logiciels de ciblage qui eux sont faits par Thales. Bref, il y a ces avions Rafale, ils ont aussi été ravitaillés.
Ces entreprises-là, elles coopèrent entre elles justement sur les différents non.
Ouais, à fond, ouais. Mm-hmm. Je sais pas, Safran par exemple qui développe vraiment des moteurs d'avion, c'est pas pour rien qu'ils sont implantés dans la même ville que Airbus, quoi. Et l'avion dont je parlais tout à l'heure, là, le MRTT, qui est un avion de ravitaillement d'avion de chasse, du coup, ben, lui aussi, il a servi au Yémen, typiquement. Les ventes d'armes à l'international, c'est vraiment des enjeux de géopolitique hyper importantes. Par exemple, là, récemment, l'État français a signé un contrat sur la vente de 30 rafales supplémentaires à l'Arabie Saoudite. Ça va rentrer dans un conflit d'intérêts pour que, ben, tout simplement, de son côté, l'Arabie Saoudite, elle assure le ravitaillement en essence, quoi, de ce pays, quoi, et des prix pas trop élevés.
Ouais, on a l'impression que ces ventes de... En fait, le fait pour la France d'avoir assis vraiment une production massive d'armes, ça peut offrir à l'État français une contrepartie pour obtenir des faveurs politiques, économiques de tel ou tel pays.
Mmh. Enfin,
je répète un peu ce que tu dis, mais voilà... Il y a pas mal d'exemples dans l'histoire de scandales. Je me rappelle, mais là j'ai pas bossé mon sujet. Je peux pas dire quel exemple je pense. Mais voilà, c'est aussi une contrepartie. Et oui, en effet, la critique, elle est souvent faite sur la dimension morale de certains régimes. Alors déjà, faudrait aussi peut-être réfléchir à la dimension morale des actions de l'armée française et de ses actions, par exemple, au Mali dans les dernières années. Mais aussi, peut-être, c'est intéressant, et c'est peut-être ta démarche, c'est de critiquer la démarche globale de l'industrie de l'armement. Pas seulement de se dire il y a des régimes à qui il faudrait vendre et d'autres auxquels il ne faudrait pas vendre.
Mmh. Bah ouais, c'est ça. Sans excuser les ventes pour autant, la situation de la France, elle est liée en fait au marché de l'armement au niveau mondial. C'est-à-dire que pendant longtemps, la France ne vendait pas beaucoup d'armes. Avant toutes les magouilles j'ai oublié comment ça s'appelle, l'ancien ministre de la Défense, bon c'est pas grave. Et c'était
Le Drian.
Ouais, Le Drian, ouais, pardon, voilà, merci. C'était pas des produits
Attends,
qui étaient...
c'est quoi les magouilles de Le Drian?
Ben, c'est à peu près à partir de son arrivée au ministère des Affaires étrangères, puis, enfin, au ministère des Armées, puis au ministère des Affaires étrangères, que les ventes d'armes de la France... vont s'intensifier dans le monde. Mais ça, c'est vraiment lié au marché mondial. C'est-à-dire que pendant longtemps, la France n'avait pas du tout de monopole comparé aux États-Unis. Et les démocraties libérales européennes, etc., elles les achètent plutôt aux États-Unis, justement. Et du coup, la France ne peut pas s'introduire dans ces marchés-là. Et je ne sais pas si c'est pas, on peut dire par conséquent, mais en tout cas, de fait, elle va nouer des accords avec des pays qui... sont loin de respecter justement ces droits humains. Mais il faut comprendre ça comme une situation structurelle liée simplement à l'économie capitaliste mondiale, quoi. C'est peut-être un peu impensif de dire ça, mais en même sens, c'est la réalité, quoi.
On se rappelle aussi, je crois qu'il y avait eu pas mal de ventes aussi au régime égyptien à un moment.
Ouais, ça a été un des dossiers les plus gros aussi que j'ai pu consulter d'Amnesty International. Il y a eu beaucoup de perturbations politiques à partir du printemps arabe en Égypte, et notamment des gros massacres de civils. Et en fait, par Al-Sisi notamment, on savait déjà, les pouvoirs publics et particulièrement la présidence savaient pertinemment ce qui se passait sur place. Et donc il y a des armes françaises qui ont été utilisées là-bas, mais surtout, après ça, il y a encore des armes qui sont vendues, encore aujourd'hui, dans les interventions au Sahel, etc. etc. Ouais. C'est des trucs de Renault qui ont été vendus, notamment Renault Truck, qui fait beaucoup de véhicules blindés avec des mitrailleuses.
Et là, depuis mars dernier, depuis l'invasion de l'Ukraine par l'État russe, les forces russes, il y a... Il y a ce qu'on appelle un retour, enfin ce que tu parlais de retour de la guerre dans l'imaginaire. En réalité, la guerre, elle a jamais quitté, notamment les régions qui la subissaient, notamment par des forces impérialistes, dont la France. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où le commerce des armes, en fait, va aller grandissant et il va y avoir une augmentation de la demande. On n'a peut-être pas le recul actuel pour savoir, on n'a pas les chiffres sur, en fait... mais j'imagine que l'industrie de l'armement est en train de produire, peut-être d'augmenter sa production pour répondre à ce réarmement massif. Est-ce que t'as fait des petites recherches là-dessus tu sais un petit peu
Ben, pas vraiment. On sait déjà qu'il y a des exports d'équipements militaires français à l'Ukraine. Pour l'instant, c'est difficile de savoir. Ouais, je pense qu'on saura mieux précisément quand on aura du recul là-dessus. Faut quand même savoir que, sans encore une fois rentrer dans ce jugement moral, qu'avant la guerre, jusqu'à peu près en 2020, donc quand même un bon moment après l'invasion du Donbass par l'État russe, il y a des entreprises françaises qui ont vendu des équipements militaires à la Russie, hein. Notamment Safran et Thales, qui ont donné une caméra, dont je ne me rappelle plus le modèle, mais qui est une caméra thermique, qui permet aux chars russes de viser... par exemple des centrales nucléaires, etc., assez précisément et en pleine nuit. Voilà, et ça, typiquement, c'est une bonne image de la situation de la vente de l'armement en France, parce que l'État russe va acheter ces caméras parce qu'elles sont... En fait, elles sont moins chères, quoi, genre, que d'autres. Donc c'est juste des logiques de marché, quoi, c'est pas du tout...
Là, aujourd'hui, est-ce qu'on... Ouais, en fait, on n'a pas moyen de savoir, par exemple, si les entreprises françaises, elles continuent de vendre à la Russie ou pas, sans dire qu'il faut ou pas vendre. Hein. Moi, je pense que de toute façon, c'est dégueulasse de toute façon. Mmh. Mais il y a moyen de... comment est-ce qu'on fait des recherches, là, quand on, justement... Alors là, je dévie complètement du sujet, mais dans quelle mesure on peut avoir accès aux informations sur, justement, ces ventes d'armes
Les médias qui font de la recherche là-dessus, c'est rarement des informations qui viennent de l'État. Des fois, c'est des fuites des entreprises, mais souvent, c'est les observations de terrain, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes sur place ou des images qui arrivent par Twitter ou quoi, des conflits, et là, on identifie un petit camion par là, un avion, un certain type de missile, etc. Ou alors une photo, là, par exemple, pour les caméras thermiques, c'était une photo... de soldats ukrainiens qui avaient détruit un char russe, qui avaient photographié l'intérieur. Et en fait, sur la photo, on voit qu'il y a la caméra de Safran. Mm-mm. Souvent, les images, on les trouve comme ça. C'est pour ça que c'est aussi des ONG ou des médias qui ont du temps et de l'argent qui peuvent donner ces infos. Parce qu'en fait, c'est un énorme taf de croisement, de sourçage et tout.
D'enquête, quoi.
Oui, d'enquête.
Très bien. Et du coup, pour en discuter, ça se passera dans le quartier de la Roseraie le 30 juin prochain. Du coup, ça tombe quel jour ?
Ça tombe jeudi prochain.
Ok, d'accord. Et pour avoir l'adresse, il faut envoyer un mail, c'est ça ?
Ouais, sur l'adresse que tu as donnée tout à l'heure dans
Placard
les
news
du Placard Brûle.
@riseup.net.
Et normalement, il va aussi y avoir une annonce sur Yatta.
Ok. D'accord. Eh ben, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, qu'on a oublié là pendant notre discussion ou...
Je sais pas, à Baletta, par exemple.
Et Thalès et Safran. Merci beaucoup à toi. On va faire une petite pause musicale. Et normalement, juste après, on va retrouver Marie-Madeleine et ses invités. Merci.
Merci, Achille. Au revoir.
Jesus, what the fuck did I do? You're happy now, bitch.
Step by step, all the happy saints go marching in. And if a saint step out of line, you have to start again. 'Cause Jacob's golden ladder gets slippery at the top, and many a happy-go-lucky saint has made that long, long drop. If I'm late, don't wait, go on without me. I may tarry a while, 'cause I mean to know before I go how come the dead.
if I'm late. Children play all around the throne, innocent of sin. A trillion voices sing the name the mortal may not know. And heaven's walls too high to hear the trouble down below. If I'm late, don't wait.